100 d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. Les discussions sur le climat ont démarré à Bakou, en Azerbaïdjan, avec en toile de fond l'arrivée à la tête des États-Unis d'un président climato-sceptique. Objectif de cette COP, aider financièrement les pays les plus pauvres à sortir des énergies fossiles. Les participants ont jusqu'au 22 novembre pour fixer le montant de l'aide que les États les plus développés peuvent apporter. Mais l'objectif est loin d'être atteint en Europe même. Si le charbon n'est qu'un souvenir pour certains pays, d'autres peinent à s'en passer. La Pologne, par exemple, avec 3 500 000 tonnes par an, elle est le premier producteur du continent. Plus de la moitié de l'énergie consommée dans le pays vient encore de ce combustible fossile qui cause pourtant beaucoup de dégâts sur la santé des habitants. Reportage dans la région minière de Silésie, Adrien Sarlat.
À peine le temps de refermer les portes que l'ascenseur de la mine nous propulse 320 mètres sous terre. Aujourd'hui, la mine de Gwido, située dans la cité minière de Zabrze en Silésie, au sud-ouest de la Pologne, a été reconverti en musée. C'est ici, dès son extraction, que le charbon a fait ses premières victimes. Jerzy Hopka est aujourd'hui à la tête du syndicat des mineurs polonais. Dans la mine où il travaille, il a vu sa santé et celle de ses collègues se dégrader au fil de sa carrière.
Le travail à la mine, c'est un travail très difficile et il comporte de nombreux risques pour la vie des mineurs. Les principaux sont la silicose et la perte d'audition.
S'il lui a davantage été exposé au bruit des machines jusqu'à perdre une partie de son audition, la majorité de ses collègues ont contracté la silicose, une maladie respiratoire particulièrement répandue chez les mineurs.
La silicose est souvent confondue avec la tuberculose car les symptômes sont plus ou moins similaires. Cependant, la silicose est plus dangereuse car elle provoque le blocage des alvéoles pulmonaires. Et avec les années, plus le mineur est exposé à la sciure, plus ses poumons sont obstrués, il n'a plus de force et finit par avoir du mal à monter les escaliers.
Une maladie incurable, responsable de la mortalité précoce des mineurs. Aujourd'hui, les visites médicales obligatoires permettent de les repérer plus tôt et d'écarter les travailleurs de la mine en cas de risque pour leur santé. Mais Yagé se souvient qu'à l'époque, ses collègues s'arrangeaient pour passer sous silence les recommandations de leurs médecins.
On poussait le mineur à changer de poste, ce qui se traduisait souvent par une rétrogradation. Et beaucoup de mineurs ont donc décidé d'ignorer les recommandations pour conserver leur poste. Ils ne se rendaient compte du problème que lorsqu'ils commençaient à se sentir affaiblis, alors que la maladie avait déjà atteint leurs poumons. Mais quand c'est trop tard, car l'argent, ça se récupère, mais pas la santé.
Mais les effets du charbon se font sentir au-delà des régions minières. Le pneumologue Tadeusz Jelonka à Varsovie est spécialiste des questions de pollution. Il alerte sur le danger de la concentration de particules de charbon dans l'air qui menace la santé de la population. Selon l'Agence européenne de l'environnement, la pollution est à l'origine de près de 50 000 décès chaque année en Pologne.
La qualité de l'air et l'espérance de vie sont directement liées. Moins la concentration de particules dans l'air est forte, moins il y a de décès, et c'est avéré. Dans les cas extrêmes, la pollution peut entraîner la mort par crise cardiaque ou des AVC et des apoplexies. Après ça, vous avez les maladies chroniques pulmonaires, les maladies artérielles et le cancer, mais enfin l'infection pulmonaire.
Le médecin regrette cependant que le problème reste ignoré par la grande majorité de la communauté médicale dans le pays.
Les connaissances sur les pollutions atmosphériques ne font pas partie de la formation des médecins. Donc ils passent à côté de l'information, ne sensibilisent pas leurs patients et la société n'a pas conscience du problème.
Le professeur salue néanmoins le travail des associations militantes comme Alarme Fumée. Depuis plusieurs années, elle attire l'attention des médias sur la nécessité d'une transition énergétique.
Vous voyez sur cette carte que la Pologne est en rouge, alors que le reste de l'Europe est en vert. Cela signifie que la concentration de pollution dans l'air est très importante.
Pour Piotr Szelgiej, le porte-parole de l'association, le problème vient avant tout des chaudières à charbon individuelles. On en compte 2 millions dans le pays et elles brûlent chaque année deux fois plus de charbon que ce que produisent les mines polonaises.
Si c'est pour brûler du charbon d'Australie ou du Kazakhstan, ça n'a pas de sens. En fait, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Il ne faut pas agir au niveau des mines, mais remplacer les chaudières à charbon, car elles sont trop nombreuses par rapport à nos capacités de production minière.
À elles seules, ces chaudières sont responsables de plus de 90% de la pollution atmosphérique totale dans le pays.
Il y a ce programme du gouvernement intitulé Air Pur qui existe depuis déjà 5 ans et qui finance le remplacement des poêles dans les maisons, car c'est là que se concentre notre problème en Pologne. Et depuis le début du projet, on a fait disparaître un tiers du problème en seulement 5 ans.
Selon lui, à cette cadence, la Pologne pourrait se débarrasser du charbon d'ici 10 ans. Une transition écologique qui nécessitera cependant d'accélérer le développement des énergies renouvelables et de réfléchir à l'avenir du secteur minier, voué à disparaître en Pologne. Le gouvernement polonais s'est fixé pour objectif une sortie du charbon à l'horizon 2050.
Au Royaume-Uni, pays pionnier du charbon, la dernière centrale a fermé ses portes il y a 6 semaines. Située à Radcliffe-on-Soar, dans le centre de l'Angleterre, elle avait ouvert il y a 56 ans. Et sa disparition, qui marque la fin d'une époque, rappelle aussi qu'il est important d'accompagner la population dans la transition énergétique. Les explications de Marie Billon.
Les 8 cheminées de la centrale à charbon de Radcliffe-on-Soar se sont éteintes pour de bon à la fin du mois de septembre. Après près de 142 000 livraisons, dont la dernière le 28 juin dernier, le site est désormais en phase de décommissionnement. Cela durera 2 ans et puis le terrain accueillera un parc technologique pour les énergies propres. Si le Royaume-Uni a voulu tourner cette page de l'histoire industrielle britannique, c'est pour écrire un avenir plus soucieux de l'environnement. Avec la fermeture de cette centrale à charbon de Radcliffe-on-Soar, Londres poursuit son objectif de produire une énergie 100% propre d'ici à 2030. Le Royaume-Uni devient ainsi le premier pays du G7 à renoncer au charbon. Les Britanniques était parmi les précurseurs du développement du charbon pour la production énergétique depuis la révolution industrielle. La première centrale avait été ouverte en 1882. Selon l'organisme Carbon Brief, en 142 ans, le Royaume-Uni a brûlé 4,6 milliards de tonnes de charbon et généré 10,4 milliards de tonnes de CO2. Pendant ce siècle et demi, le secteur a aussi créé des millions d'emplois. Et aujourd'hui, la transition pour les habitants de Radcliffe-on-Soar n'est pas évidente. Les cheminées faisaient partie du paysage depuis 1967. Beaucoup de locaux y ont fait carrière, mais les spécialistes assurent que les compétences des travailleurs du charbon sont utiles pour développer les énergies propres. Un plan de transition professionnelle a été mis en place en collaboration avec les syndicats. Selon eux, un service d'accompagnement pour aider à identifier de nouveaux emplois pour les 154 employés perdant leur travail a été créé, ainsi qu'un fonds pour aider les travailleurs à se reformer et trouver de nouveaux emplois de haute qualité.
De l'énergie, il en faut. Il en faudra de plus en plus pour le stockage des données. En France, le secteur des data centers a une croissance 7 fois plus forte que le reste de l'économie. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la demande mondiale n'est pas près de ralentir. En Europe, l'Espagne est en train de rattraper ses voisins. Depuis quelques mois, les grandes multinationales technologiques choisissent toutes d'y installer leurs nouvelles infrastructures. Mais le revers de la médaille, c'est l'approvisionnement en énergie. On en parle avec François Musso, correspondant à Madrid. L'Espagne est donc en train de devenir le pays préféré des GAFAM. Comment est-ce que ça s'explique ?
En effet, oui, le pays ibérique est perçu par tous ces géants comme un endroit idéal. Les raisons sont multiples. Tout d'abord parce que c'est un pays très avancé en termes d'énergie renouvelable. Ensuite, l'énergie y est globalement bon marché. En outre, il y a beaucoup d'espace disponible, à quoi il faut ajouter que les infrastructures de fibre optique sont bonnes et qu'il y a une connexion directe avec le continent américain via des câbles sous-marins.
Est-ce qu'on en est au stade des projets ou est-ce que tout ça est bien avancé ?
C'est avancé et dans certains cas, très avancé. En février, Microsoft disposera de 3 centres de traitement de données amplifiés à Madrid. Amazon projette un immense campus à Talavera en Castille, à 100 km de Madrid. Enfin et surtout, il faut citer un nouvel Eldorado, c'est l'Aragon, capitale Saragosse, une région avec plein d'espace située à mi-distance en TGV et par route entre Barcelone et Madrid.
Alors on parle, François, d'investissements qui sont massifs et porteurs de croissance, seulement voilà, ils ont un impact considérable sur l'environnement.
Tout à fait, des investissements énormes, vous l'avez dit, Microsoft en Aragon, c'est 16 milliards d'euros. Et le grand problème, ici et ailleurs, le talon d'Achille, c'est l'eau. Ces géants en sont très gourmands. Seulement pour parler du complexe de Meta, ce seront 504 millions de litres par an. Un peu moins en Aragon, où les centres fonctionneront en circuit d'eau fermée. En général, les compagnies ne communiquent pas sur ce domaine. Et ici, cela en inquiète plus d'un, les écologistes au premier chef.
François Musso à Madrid, merci. Un an après le retour au pouvoir de Robert Fico, en Slovaquie, les médias sont sous la pression du gouvernement. L'audiovisuel public, tout comme certains médias privés. Restructuration, pression, tri des journalistes aux conférences de presse. Au sein des médias slovaques, déjà traumatisés en 2018 par l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak, l'ambiance est à la morosité et à l'inquiétude. À Bratislava, le reportage de notre correspondant Alexis Rosenzweig.
La salle du café de l'université Comenius est remplie pour une conférence sur la désinformation en Slovaquie, où l'une des particularités est que cette désinformation émane régulièrement de membres du gouvernement de Robert Fico, journaliste indépendant. Martin Hodas est spécialisé dans le domaine.
Ici, la désinformation a été en partie amplifiée par le nouveau gouvernement. Il a tout fait pour revenir sur ce qui avait été mis en place contre ce phénomène. Et maintenant, après les mesures adoptées pour contrôler l'audiovisuel public, c'est aux journalistes de la radio et de la télévision nationale de se défendre activement pour ne pas céder à la pression et ne pas devenir un média d'État.
Professionnalni tým redaktorov a moderátorov.
Sous les coups de boutoir du gouvernement, la radio-télévision publique a changé de nom et son conseil de surveillance est désormais élu par les députés de la coalition, ce qui est sévèrement critiqué par l'opposition libérale slovaque ainsi que par Reporters sans frontières, où Pavol Salaj est en charge de la région.
Nous avons déjà une loi en Slovaquie qui a été votée et qui a fragilisé de manière extrêmement importante l'indépendance de l'audiovisuel public. Déjà, l'état actuel dans lequel nous nous trouvons est sérieux puisque l'audiovisuel public en Slovaquie est dirigé par une personne nommée par le président du Parlement suite à un accord des partis au gouvernement. Ce n'est absolument pas conforme à des standards européens de l'indépendance des médias publics et à la loi européenne sur la liberté des médias. Nous sommes convaincus que cette loi et le fonctionnement actuel ne sont pas conformes à cette législation européenne et il y a lieu pour la Commission européenne de commencer une procédure pour infraction du droit européen.
Pour ce qui est des médias privés, certains sont la cible privilégiée de Robert Fico et des membres de son gouvernement qui refusent également de répondre à leurs demandes d'interview ou de les laisser entrer aux conférences de presse. Beata Balogova est la rédactrice en chef de SME, l'un des principaux quotidiens du pays.
Robert Fico et ses collègues ont appris à utiliser des tactiques développées par Viktor Orban pendant 10 ans avec des narratifs similaires ou des cibles comme George Soros. Robert Fico a compris que pour avoir la main mise sur la société, il devait lui aussi bâtir un petit empire médiatique. C'est pour ça que son gouvernement a commencé à donner une certaine légitimité à des médias qui pratiquent la désinformation. Lui n'a pas accordé d'entretien à notre quotidien depuis 15 ans, mais il en donne à des sites internet financés par la Russie.
L'actuel ministre de la Culture elle-même travaillait pour un site de désinformation avant d'entrer au gouvernement, où elle a également en charge le dossier de l'audiovisuel public. Martin Hodas.
C'est un média qui s'appelle TV Slovan, pour lequel elle a travaillé avec une autre personne élue au Parlement entre-temps. C'était le type de vidéo complotiste qui colportait des rumeurs assez absurdes, comme l'idée qu'on inoculerait des puces électroniques aux gens pour les suivre, un peu du niveau de la théorie que la Terre est plate. Mais elle a réussi à se faire élire et à devenir ministre. et on redécouvre aujourd'hui les dingueries qu'elle a contribué à propager.
Quant au Premier ministre Robert Fico, il a été critiqué même par certains de ses soutiens pour avoir participé à la principale émission de propagande du Kremlin sur la première chaîne de télévision russe. La même semaine, la télévision publique slovaque annulait un entretien avec le réalisateur d'un documentaire sur l'ancienne présidente du pays, alors que la chaîne avait accepté, mais sous la précédente direction, de coproduire le film.
Au Royaume-Uni, le Parti conservateur confirme son virage à droite toute en nommant à sa tête Kemi Badenoch. Âgée de 44 ans, élevée au Nigeria, elle devient la première femme d'origine africaine à occuper un tel poste dans le pays. Et on en parle avec Daniel Valo. Bonjour.
Bonjour.
C'est donc l'aile la plus conservatrice des Tories qui l'a emportée.
Oui, en témoignent les premières déclarations de la nouvelle dirigeante conservatrice dans la foulée de son élection. Kemi Badenoch, désignée avec près de 57% des suffrages pour succéder à l'ancien Premier ministre Rishi Sunak, promet de revenir aux valeurs fondamentales du Parti conservateur britannique.
Notre parti est essentiel à la réussite de notre pays. Mais pour être entendu, nous devons être honnêtes sur nos erreurs et sur le fait que nous avons laissé nos principes de base nous échapper. Le temps est venu de dire la vérité.
Kemi Badenoch, avant d'arriver à la tête du Parti conservateur, a eu un parcours hors du commun. Elle a grandi au Nigeria, au sein d'une famille plutôt aisée. Son père est médecin, sa mère universitaire. Et bénéficiant de la nationalité britannique, elle choisit de terminer ses études au Royaume-Uni. Elle devient ensuite ingénieure en informatique et commence à militer au sein du Parti conservateur dans les années 2000, à un moment où les Tories tentent de se moderniser. Pour cela, ils vont mettre en avant des militants issus justement de minorités ethniques. Agnès Alexandra Collier, professeure en civilisation britannique à l'Université de Bourgogne.
Elle parvient à réconcilier, si vous voulez, deux stratégies qui ont dominé le Parti conservateur ces dernières années, c'est-à-dire apparaître comme un parti inclusif, hein, du moins dans la forme, et en même temps continuer sa progression idéologique vers la droite de l'échiquier politique. Et donc on voit apparaître comme ça des minorités ethniques comme Priti Patel, même Rishi Sunak et Kemi Badenoch en fait partie, de minorités ethniques qui incarnent cette inclusion tout en étant particulièrement à droite et peut-être plus à droite que, si je puis dire, les députés blancs traditionnels du Parti conservateur.
Et Daniel, au-delà de ce parcours, il y a aussi la très forte personnalité de la nouvelle dirigeante conservatrice.
Oui, Kemi Badenoch est connue pour ses déclarations très provocatrices, très clivantes. Sur le fond, elle propose un retour à ce qu'elle appelle le vrai conservatisme. Favorable au Brexit, elle veut réduire l'immigration illégale et limiter le rôle de l'État. Enfin, elle affirme vouloir lutter contre l'influence des idées gauchiste au sein de la société, avec un modèle cité en permanence, celui de Margaret Thatcher. Thibaut Arroy, maître de conférence en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle.
La référence à Margaret Thatcher est un peu une référence obligatoire pour tout leader du Parti conservateur. Maintenant, je pense que le fait que Kemi Badenoch cite si souvent Margaret Thatcher, c'est une façon pour elle d'assumer cet héritage libérale, de montrer qu'elle ne cherchera pas à transiger avec ce libéralisme et donc qu'elle n'est pas du tout dans la lignée plus modérée de certains conservateurs. Et elle cherche certainement à démontrer, en faisant appel à la figure de Margaret Thatcher, qu'elle se place dans cette lignée vraiment la plus à droite dans le Parti conservateur.
C'est donc un virage à droite assumé et revendiqué que propose Kemi Badenoch, avec un double objectif: incarner une opposition frontale au nouveau gouvernement travailliste et reconquérir les électeurs séduits par Reform UK, le parti de Nigel Farage, positionné à la droite des Tories. Un double pari risqué pour la nouvelle dirigeante conservatrice qui s'est toutefois fixé comme objectif de ramener son parti au 10 Downing Street en 2029 lors des prochaines élections.
Merci Daniel Valo, à bientôt. À la réalisation d'Accent d'Europe, Théo Raison. Rendez-vous en podcast sur RFI Pure Radio. D'ici là, restez à l'écoute, l'info continue.